Nous disons simplement, nous vous souhaitons cordialement à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur, Jésus-Christ. Nous sommes toujours reconnaissants de ce que nous pouvons encore nous rassembler et que nous avons la possibilité d'écouter la parole de Dieu sans être dérangés, être rassemblés. Tout cela, c'est que la grâce de Dieu. Aussi à tous ceux qui peut-être aujourd'hui sont ici pour la première fois, sentez-vous bien. Je voudrais spécialement vous souhaiter à tous les bienvenus. Avons-nous des frères et des sœurs qui aujourd'hui sont ici pour la première fois? Levez rapidement les mains. Ou bien alors, merci, merci, oui, il y en a quand même quelques-uns, merci, oui. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse tous. Ensuite, nous avons particulièrement du frère et de la sœur Rousse, des salutations fraternelles. Ensuite, du frère et de la sœur Pézal, des salutations fraternelles. Ensuite, je ne me suis pas noté tout, mais des salutations de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Russie, de Moscou, de Nairobi, de Johannesburg, de Kapstadt, de Mbujimaï, du docteur Mbie, notre vieil ami, et ensuite d'Atlanta, du Gabon, de l'Ouganda, du Burkina Faso. Ensuite, nous avons des salutations du frère Graf, des salutations du frère Genton, des salutations du frère Wallström. Oui, et ici, encore des salutations du frère John de Bucarest. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai particulièrement des salutations de mon vieux ami qui souvent m'a accompagné au Pakistan, en Inde, de notre bien-aimé frère de Osterroth, de la Suisse. Et il écrit ici, quand, pour la première fois, en t'adressant ces quelques mots, je ressens quelque chose. Une reconnaissance grande et profonde. Oui. Oui. Grande et profonde reconnaissance. Je devrais arrêter de lire de ce que tu existes. Et de ce que j'ai eu la grâce de te connaître. Et ensuite, il vient et mentionne le ministère et les voyages qu'on a eus ensemble, qu'on a entrepris ensemble. Encore des salutations de Dublin, de l'Irlande, ensuite du Congo, de la République du Congo, de plusieurs villes. Et encore des salutations de la Guyane équatoriale et de partout des salutations fraternelles. Nous sommes liés avec tous de tout notre cœur et nous nous réjouissons aussi de ce que nos bien-aimés frères et sœurs de la Finlande aujourd'hui sont ici en grand nombre. Et oui, de toute l'Europe, nous sommes ici représentés de tous les pays voisins, jusqu'à même de l'Italie, que Dieu vous bénisse particulièrement, et aussi de tous nos amis, particulièrement de tous les frères dans le ministère, que Dieu nous bénisse tous richement. Nous avons, comme tous vous le savez, un voyage richement béni en Israël. 5 personnes se sont laissées baptiser. C'était un voyage richement béni. En 5 langues, nous avons entrepris ce voyage avec 80 personnes. Nous étions 50 ensuite, 25 se sont ajoutés, et ensuite 5 personnes et encore 3 personnes. Et pour finir, nous étions donc en tout plus de 80 personnes. Et comme déjà mentionné, peut-être que pour la première fois, d'abord la question, qui a été une fois en Israël? Oui, oh, regardez, ouais, mais tout un grand nombre, que Dieu vous bénisse. Et qui voudrait encore venir? Oh, mais encore tous lèvent la main. Regardez. Oui. Non, c'était puissant. On voit comment est-ce que on voit toutes les vieilles villes, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et alors que notre frère Tika se tenait devant la mer Rouge, que tous nous entendions ce qu'il avait à dire. Ensuite, subitement, les paroles de sa bouche se sont exprimées et on dit « La mer est rouge » et à 1500 mètres de profondeur. Alors, je me suis dit « Mais qu'est-ce que cela est pour Dieu ? Si Dieu dit à Moïse « Lève ton bâton, ta verge sur la mer et moi je vais séparer les eaux. » Alors Moïse a seulement besoin d'obéir et d'élever la verge. Et c'est Dieu qui a divisé la mer et la mer s'est tenue comme deux murs à droite et à gauche. Et le peuple d'Israël a traversé au sec et le Pharaon avec tous ses gens ont été vivants. Donc, comme enseveli, un vivant enseveli, et personne n'a survécu. Je veux rapidement me résumer. Et ensuite, nous avons de la montagne des Oliviers, de laquelle le Seigneur est monté au ciel et qu'il a regardé sur Jérusalem. Nous avons aussi la montagne du Temple de l'Éternel. Et nous sommes rappelés que le temps est proche et nous avons compris que Israël, par des difficultés particulières et des problèmes, doit passer comme aucun autre pays sur terre. Mais Dieu aussi, avec Israël, va atteindre son objectif. Et sur la montagne de Sion, sur laquelle aussi nous étions, il établira son règne tel que cela est écrit. La chose la plus belle chose, ou bien alors la chose la plus saisissante, était à Gethsémané, et ensuite aussi Golgatha, le jardin du sépulcre, simplement merveilleux quand on peut aussi traverser tout le pays de la Bible comme ça en voyage. Ensuite, nous avons tous compris que dans les premier mois de cette année, beaucoup plus de choses se sont passées que dans les premières. Que pourrait se passer encore dans les derniers 5 mois? Que ce soit des forêts qui ont brûlé, des tremblements de terre, ou bien des famines, ou bien des inondations, que ce soit des volcans qui ont éclaté. Partout où on regarde, réellement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le commencement de cette année. Et ensuite, toutes les crises et les gouvernements, les pays, des gouvernements et des pays sont en crise, des banques sont en crise et tout est dans une crise. Seulement que des crises et encore une fois des crises. Et je peux vous dire une chose, les choses ne vont pas s'améliorer, les choses ne vont pas devenir meilleures. Les choses ne vont pas devenir meilleures. Elles vont encore s'aggraver. Mais nous qui avons cette espérance vivante en nous et qui avons la grâce de savoir que le Seigneur, dans notre temps, accomplira tout ce qu'il a promis, nous attendons au retour proche du Seigneur. Et cela dans notre temps, oui. Nous le disons librement et ouvertement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, justement, dans tous les 3 exposés de l'Évangile, a dit ouvertement, dans 3 exposés, il a dit, « Quand vous verrez que toutes ces choses-là s'accomplissent, alors levez vos tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous avons reconnu les signes des temps clairement et nous nous réjouissons de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant et de trouver grâce devant Dieu. Quand on parle de la grâce, il y a deux pensées, deux paroles qui me viennent dans le cœur. La première, c'est de l'évangile de Luc, le chapitre 11, et ensuite dans Luc, le premier chapitre. Nous allons aujourd'hui parler de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Nous allons parler du fondement de l'Église et du Nouveau Testament. Et nous allons parler aussi du rétablissement de toutes choses, que tout sera rétabli dans l'état primitif. Mais écoutez ici les paroles de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ensuite, notre Seigneur continue, et ensuite, il y a une femme qui a élevé sa voix au verset 27 et au verset 28, notre Seigneur l'a corrigé à l'instant même, au verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Bénis le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Ensuite, notre Seigneur ici lui coupe la parole et il répondit, ici il est écrit, et il répondit, « Bénis plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ça, c'est la plus belle explication de ce que aussi la vénération de Marie n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas un saint ou bien des entrailles, mais c'est à notre Seigneur qu'appartient toute la gloire, car la parole, les Écritures devaient s'accomplir. Mais ici encore rapidement, allons dans Luc, le premier chapitre, au verset 28, Luc chapitre 1, au verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Toi à qui une grâce a été faite. Qui a reçu la grâce de Dieu. Cela signifie, écoutez bien, maintenant le verset 30, il est écrit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Recevoir la grâce de Dieu, avoir trouvé grâce devant Dieu, d'expérimenter, d'écouter dans son époque la parole de la promesse et de croire la parole de la promesse pour qu'elle puisse s'accomplir. Et la même chose se passe avec nous. Nous écoutons les paroles de Dieu. Nous recevons dans notre cœur, dans la foi, toutes les promesses. Ensuite, ce n'est pas un prophète qui est glorifié, ce n'est pas un homme qui est glorifié, mais tout l'honneur appartient au Dieu Tout-Puissant, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que tel que nous l'avons lu. Bon, bien-aimés frères et sœurs, C'est, je le crois, l'un des devoirs les plus difficiles de parler du fondement de l'Église du Nouveau Testament. Sur les dons de l'Esprit, sur les ministères, de parler de tout ce que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres et aussi dans les Épîtres. Ce qui est réel, c'est que toutes les églises se sont établies dans un enseignement. Eux ont décidé ce qu'ils doivent croire et comment est-ce qu'ils doivent croire. Tout est déjà décidé fermement. Nous avons qu'une seule décision, elle est déjà prise dans cette parole, la Bible. Et de la chorale, nous l'avons aussi avec eux chanté de tout notre cœur, tel que c'était au commencement. C'est ainsi que Dieu s'est proposé de bénir son peuple à la fin, pour que nous, en tant que corps du Seigneur, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous nous tenions réellement à la disposition de Dieu pour qu'il puisse, avec nous, recevoir ce qui lui revient de plein droit et nous aussi, avec lui, recevoir tout ce qui nous revient de plein droit. Alors que nous étions à Jérusalem, j'ai un soir, dans la réunion, dit que nous devons suivre notre Seigneur par Gethsémané, avec lui aller jusqu'à la condamnation devant Pilate et jusqu'à même la croix à Golgotha pour que nous puissions, comme Paul dire, vous connaissez tous cette écriture par cœur, Galates chapitre 2, le verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis. » Le mot en allemand, ce n'est plus moi, le mot moi. Et est-ce que vous voulez qu'on lise cela? Mais c'est Christ qui vit sa propre vie en moi. Et à cela appartient simplement que nous puissions, comme le Rédempteur, aller au chemin qui mène à la croix, c'est-à-dire à Gethsémané, comme il disait, pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais que ta volonté soit faite, que réellement nous soyons crucifiés avec Christ et que nous puissions ressusciter avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Ici, il est écrit au verset 20, Galates chapitre 2, verset 20. Alors, ce n'est plus moi qui vis, pas le propre moi, ce que je peux, ce que je veux, non. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Deux fois le mot « moi ». Ce n'est plus moi qui me vis. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour moi, vit en moi, pour que ma propre vie cesse et que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Soyez heureux dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, car les promesses de Dieu sont valables. Elles ne s'ébranlent jamais et nous avons les Saintes Écritures, nous avons la parole de Dieu, nous avons du commencement de la pierre, de l'angle dans Ésaïe 28, ensuite dans le psaume 118, la pierre angulaire a été rejetée. Et ensuite, dans les quatre évangiles, notre Seigneur aussi a mentionné cela. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11, Pierre aussi a fait mention à cette écriture et aussi dans son épître. Et ensuite, nous avons la parole de la pierre de fête. Aussi deux fois, dans Zacharie 4, mentionné que la pierre de fête est sous les louanges, grâce, sera placée. La pierre de l'angle, nous la connaissons tous. La pierre de l'angle, c'est la première pierre qui est placée pour justement commencer un bâtiment. Et la pierre du fait, c'est la dernière pierre où il n'y a plus de pierres qui peuvent être ensemble au même endroit, mais c'est la dernière pierre qui est complètement donc au sommet, c'est la pierre de fait. Et le Seigneur bâtit son Église. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est la pierre. Il est la pierre de fait. Et les scribes et pharisiens l'ont rejeté. Les scribes et pharisiens autrefois l'ont rejeté. Et peut-être que nous devrions le lire comme dans Ésaïe. Ils se sont tous heurtés. Et la même chose se répète encore aujourd'hui avec la pierre de fait. Ils ne peuvent pas le mettre à sa place. Et par la grâce de Dieu, nous avons la grâce de savoir qui est Jésus-Christ réellement. Écoutez bien ce qui est écrit ici dans Ésaïe chapitre 28. Verset 16. Que Dieu bénisse aussi ceux qui traduisent. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui, normalement celui qui croit, n'aura point hâte de fuir. Ensuite, le verset 17, « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. » Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, du mensonge. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui croit reçoit révélée la parole et la volonté de Dieu. Ensuite, dans Ésaïe, le chapitre 8, Ésaïe, chapitre 8, ici nous avons versets 14 et 15. Ésaïe, chapitre 8, verset 14. Et il sera un sanctuaire. En allemand, et il sera un sujet de sanctification, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les dieux, pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Nous revenons tout de suite à l'autre verset, maintenant le verset 15. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Nous ne portons pas un jugement, mais nous portons une telle douleur en nous de ce que le peuple d'Israël, pendant 4000 années, a attendu le Rédempteur, le Sauveur, et quand il vint, ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient leurs interprétations, ils avaient leur façon de voir les choses, et leurs interprétations sont devenues pour eux un sujet de trébuche. Et comme c'est écrit ici, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, hein, leurs interprétations, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Et quand nous pensons à cela, à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, c'est-à-dire que d'un côté, les uns l'ont rejeté et les autres l'ont reçu et l'ont accepté et ont été bénis. Seulement pour insister et dire que maintenant, à la fin du temps de la grâce, Dieu fait l'histoire et tous ceux qui sont enveloppés dans leur dans le piège de leurs propres interprétations ne reconnaîtront pas ce que Dieu fait maintenant. Au contraire, ils vont toujours parler contre cela et critiquer comme et trébucher comme cela s'est passé autrefois avec les scribes et pharisiens. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 14, nous lisons, nous revenons tout de suite. De préférence, j'aurais tout de suite lu la parole de Zacharie 4 pour nous montrer qu'à la fin du temps de la grâce, selon le prophète, selon la parole prophétique, cela va s'accomplir, ce qui, ou bien alors ce que nous attendons va s'accomplir. Dans Zacharie chapitre 4, je ne vais pas parler concernant le chandelier et les sept lampes et le réservoir d'huile et les sept conduits comme cela est écrit ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces choses, mais ici, au verset 6, il est écrit dans Zacharie 4, au verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et ensuite, au verset 7, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, 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 grâce pour elle. » Nous pourrions continuer à lire. Notre Seigneur achève son Église, la rend parfaite, et cela dans ce temps. Dans ce temps, il la rend parfaite. Lui qui a fait le commencement et avec grande grâce a couronné son œuvre et a accordé l'effusion du Saint-Esprit pour que c'est lui qui est la parole. Et seulement lui qui est la parole dans son Église. Allons dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Et ici, à partir du verset 14, ici il est écrit, « Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ce terme. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Mais ici s'accomplit ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous avons toujours de nouveau eu à dire, d'abord, Dieu a donné des promesses et quand le temps fut accompli, il l'a accompli ce qu'il a promis. le fondement de l'Église du Nouveau Testament a eu lieu par le déversement du Saint-Esprit. Et cela avait été déterminé par Dieu ainsi, tel que la mort, la souffrance de notre Rédempteur a été déterminé. Tout à l'avance a été déterminé comme ça par Dieu. Aussi, les difficultés par lesquelles nous passons sont déterminées ainsi par Dieu. Dans le prophète Joël, nous avons la promesse et nous savons que tout exactement s'est accompli tel que c'était écrit là-bas et encore aujourd'hui, écrit encore. Bon, allons à Matthieu, le chapitre 3. Et pour que tous puissent savoir, et je vous demande sincèrement et ouvertement que nous ayons aucune résistance dans notre cœur devant la parole de Dieu, que nous permettons aucune résistance, que nous soyons, que nous puissions faire en sorte que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de prétendre que nous croyons chaque parole telle qu'elle est écrite, ou bien que je crois comme c'est écrit les Écritures. Mais malgré tout, quelque part, nous sommes parfois un peu réservés et nous ne croyons pas à 100%, nous ne pouvons pas croire à 100% parfois tel que c'est écrit. Cela, nous ne pouvons plus nous le permettre. De croire selon les Écritures, ça ne doit pas être seulement une prétention. Nous devons, dans la réalité, avoir un amen à chaque Écriture. Chaque parole de Dieu sont oui et amen. Que ce soit que nous parlions de la rédemption selon la parole, de la nouvelle naissance, de la régénération, du baptême du Saint-Esprit, nous devons, de tout notre cœur, nous avons la grâce de tout notre cœur de croire tel que l'Écriture l'enseigne. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons aussi expérimenter les choses telles que le Seigneur les a promis. Ici, dans Matthieu, le chapitre 3, nous avons à partir du verset 12, oui, peut-être même déjà à partir du verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. C'est ainsi que Jean, sous la conduite du Saint-Esprit, a dû l'exprimer. Il a baptisé d'eau ceux qui devinrent croyants, qui croyaient son message. Et en même temps, il a annoncé, vous qui croyez mon message, venez, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ensuite, dites amen à cela, dites amen, oui, bien sûr. Et ensuite, au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et qu'est-ce qui monte maintenant dans chaque enfant de Dieu, dans chaque fille de Dieu, dans chaque fils de Dieu, dans le plus profond de votre cœur? Bien-aimé Seigneur, cette prière, bien-aimé Seigneur, que je puisse avoir la même expérience que tu as eue. Jésus. Que ton bon plaisir par cela est exprimé, que ton affection est exprimée de cette manière que tu te déverses sur moi, sur nous, par ton esprit. Nous pourrions encore, j'aurais dû apporter les citations de frère Branham, où réellement il dit que c'est la preuve de Dieu d'avoir reçu la grâce de Dieu et d'avoir été agréé quand le Seigneur, d'une manière surnaturelle, en nous confirme de cette manière sa parole et nous accorde les mêmes expériences que son Fils, comme au commencement. Ensuite, nous avons dans Luc, le chapitre 24, les promesses merveilleuses. Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Et voici, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce n'était pas seulement un souhait exprimé, c'était un ordre. Restez ici, dans la ville, vous êtes mes témoins, vous devez rester à Jérusalem, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous rendrez témoignage de ce que, par cela, je vous ai fait, je vous ai déterminé à être mes témoins, mais s'il vous plaît, avant cela, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous expérimentez la promesse de mon Père. Et ensuite, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pensons à Pierre, sans porter un jugement. Trois fois, il a renié de connaître le Seigneur. Mais le jour de la Pentecôte, c'était tout à fait un autre homme de Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait une autre personne. Un autre homme de Dieu. Le coq avait sonné, n'est-ce pas? Mais en temps, beaucoup de choses s'étaient passées. En tant que le ressuscité, il a expérimenté le Seigneur. Il pouvait dire, nous avons, après sa résurrection, mangé et bu avec lui. Dans Actes chapitre 10, il pouvait le dire. Il était présent. Alors que le Seigneur, jusqu'en Béthanie, avait pris ses disciples de l'autre côté de la montagne des Oliviers et avait étendu ses mains sur eux pour les bénir. Et il était présent alors que le Seigneur avait exprimé le dernier ordre missionnaire. Et ici, nous voyons ce que le Seigneur autrefois a dit. Et cela s'est exactement accompli tel qu'il a dit. Et maintenant, quelqu'un penserait peut-être, oui, mais qu'est-ce qu'il y a ici de particulier dans le baptême de Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il y a ici de particulier? Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? Qu'est-ce qui s'est passé au commencement, vraiment? Et ce qui se passe, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore? Disons les choses. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et dans toute l'éternité. Et il baptise aujourd'hui encore d'esprit et de feu. Si, et s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, si de tout notre cœur nous sommes convaincus de ça, que nous vivons dans la dernière génération et que les prophéties bibliques partout et les prédictions partout dans les extrémités de la terre, partout, sont en train de s'accomplir, nous les voyons, et que nous savons que l'enlèvement va s'accomplir, va avoir lieu. Alors, nous devons être revêtus de la puissance d'en haut. Nous devons porter en nous la puissance du Saint-Esprit pour que nos corps mortels soient vivifiés par l'Esprit de Dieu qui habite dans notre cœur. Par la puissance de Dieu qui habite dans notre cœur. Romains 8, verset 11. Est-ce que nous devrions, comme ça, théoriquement, être en train de parler de l'appel à sortir, de la préparation de l'épouse, comme ça, dans la théorie, ou bien est-ce que nous avons l'obligation sainte de dire que si tous nous voulons prendre part à l'enlèvement, alors nous devons revenir au modèle original de l'Église et faire les mêmes expériences avec Dieu. L'Église doit à la fin revenir dans le même, à marcher dans le même pas, et le pas biblique, à marcher dans le pas biblique. Maintenant, encore une question. Qui sait que le parler en langue appartient à l'ordre missionnaire? Qui le sait? Qui le sait? Levez, s'il vous plaît, les mains. Qui sait? S'il vous plaît. Et soyez sincères. Savez-vous que le parler en langue fait partie de l'ordre missionnaire? Oui. Si, quand nous regardons dans les Saintes Écritures, si nous lisons dans les Saintes Écritures, alors nous avons Matthieu 28, l'ordre missionnaire dans Matthieu 28. Nous avons dans Marc 16, nous l'avons aussi dans Luc 24 et nous avons aussi dans Jean 20, l'ordre missionnaire. Et dans Marc 16, notre Seigneur aussi, entre autres choses, a dit la chose suivante. Il dit Luc 16, mais il veut probablement dire Marc 16. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je voulais dire Marc 16. Oui, effectivement. Marc 16. Ici, il est écrit Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a un homme sur terre qui ici peut barrer quelque chose et dire non, ça je ne le crois pas. Bon, ça je le crois, mais ça je ne le crois pas. Non. Non. Si nous témoignons, croire de toute écriture et vivre de toute parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu et croire aussi chaque parole de la Bible, alors le temps est arrivé où nous allons expérimenter ce qui est écrit. Car, à la dernière fois, ici, l'ordre missionnaire est exécuté. Et toute l'Église doit se tenir derrière cet ordre missionnaire. Donc, ce qui est écrit, ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, s'il vous plaît, appartenait à l'exécution de l'ordre missionnaire. Appartenait, c'est-à-dire d'être revêtu de la puissance d'en haut. Cela appartenait à l'exécution de l'ordre missionnaire pour que les dons de l'esprit puissent être exercés et aussi le parler en langue. La langue devait et doit être placée dans le ministère, à la disposition du Seigneur, Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, nous avons aussi la description de Pierre, ou bien alors de Paul, en relation avec les dons de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12, et ensuite dans le chapitre 13 et le chapitre 14. Et il vient ensuite à cette finalité et il dit, même si je parlais dans les langues des anges, mais que je n'avais pas l'amour, alors je ne serai rien, une cymbale qui retentit. Alors là, nous sommes tous d'accord avec ça, n'est-ce pas? Mais qu'auparavant, ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 12, il dit que je parle plus en langue que vous tous. Qu'est-ce que ça alors? Et ensuite il dit, si je viens dans une assemblée, alors je préférerais prononcer 5 paroles avec mes sens humains que des milliers de paroles en langue. S'il vous plaît, croyez-moi. Une telle sagesse divine dans laquelle cet homme de Dieu, par la grâce de Dieu, a servi le Seigneur. Tout a été ordonné à sa place. Dans un équilibre divin pour que personne sorte de l'équilibre et ayant des penchants. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous avons la confirmation, lisons cela, au verset 1, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, suit, n'est-ce pas, toute la description de ce qui s'est passé autrefois. Qu'est-ce que nous voulons dire en mentionnant cela, bien-aimés frères et sœurs? Je vais encore le dire en insistant. Je ne peux pas me permettre à l'ordre du Dieu Tout-Puissant d'avoir prêché et ensuite de voir que des frères et des sœurs qui ont écouté sa parole de ma bouche ne prendront pas part à l'enlèvement, ne seront pas prêts pour l'enlèvement. Je ne peux pas me permettre cela. Je veux mettre ma confiance en Dieu, croire Dieu, que tous ceux qui maintenant croient selon les Écritures entrent aussi en possession de tout ce que les Écritures promettent. Pourquoi pas? Si nous croyons réellement tel que dit les Écritures, pourquoi pas? À Zurich, je l'ai mentionné, je ne devrais pas le faire partout et toujours, mais après la guerre, il y avait encore des temps de réveil. Tous les ceux qui s'étaient enfuis et qui n'avaient plus rien. Mais il y a une chose qu'ils avaient encore, c'était les réunions de prière. Ils avaient des réunions de prière. Et ne me demandez pas comment, ne me demandez pas. Hein, c'était le soir, c'était après le coucher du soleil. Et eux, ça montait, ça allait jusqu'à l'heure de minuit. C'était des heures de prière, pour prier. Je me souhaite encore ce temps parmi les croyants. Et c'était le temps de difficultés. C'était après la guerre. C'était un temps de réveil. L'Esprit de Dieu agissait puissamment, d'une manière merveilleuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais personnellement, je l'ai expérimenté depuis 1949. Je sais de quoi je parle. Et j'ai expérimenté tout ce temps-là, des années passées, et je l'ai utilisé pour ainsi porter le message divin, du plein évangile, et cela dans le monde entier. J'ai saisi tout ce temps pour cela. Et je savais que le dernier appel devait retentir dans le monde entier et que les derniers vont s'ajouter avant au peuple de Dieu avant que le Seigneur donc fasse la fin. Lui-même, il fera la fin. Ce ne sera pas par l'honneur ou bien par la puissance, mais seulement par son esprit. Cela aura lieu, tel qu'on l'avons lu dans Zacharie 4. Mais à nous, il faut qu'un désir grandisse, que nous puissions dire, bien-aimé Seigneur, s'il te plaît, tu as promis ces choses, C'est ainsi que c'était au commencement dans l'Église. Accorde-le-nous, accorde-le-moi aujourd'hui. Je vous dis que cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir parce que Dieu, dans sa parole, l'a promis ainsi. La fin doit être semblable au commencement. Oui, sera semblable au commencement. Pourquoi est-ce que la langue de feu? Pourquoi des langues de feu? La langue est un membre mauvais. Et là, Dieu a de nouveau pu utiliser un apôtre pour décrire la langue. C'était Jacques. Le Seigneur n'a pas pu trouver un meilleur apôtre que Jacques pour nous décrire ce que la langue, ce qu'on peut produire avec la langue. On a seulement besoin d'ouvrir, et cela est écrit aussi tout de suite, n'est-ce pas, dans Jacques chapitre 1, d'abord au verset 26.
Zu dienen meint und dabei seine Zunge nicht im Zaum hält, sein Herz betrügt.
Verset 19, Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a. Pardon, chapitre 1, verset 26. Chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit servir Dieu sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, le service de cet homme est vain. Celui qui pense servir Dieu, mais ne peut pas garder sa langue en bride, son service est vain. Pourquoi? Parce qu'avec sa langue, il produit des dégâts. Si quelqu'un croit servir Dieu sans tenir sa langue en bride, c'est peut-être en tant que notre langue doit être consumée par le feu divin pour ainsi être placée au ministère de Dieu, au service de Dieu. Dans Jacques chapitre 2, donc il a lu dans Jacques chapitre 1, pardon, au verset 26, et ensuite dans Jacques chapitre 2, ce sont des paroles merveilleuses qu'on n'aurait pas en fait avoir besoin de lire à une église croyante, mais lisons quand même, car c'est encore le temps de la grâce. Dans Jacques chapitre 2, pardon, Jacques chapitre 3, verset 5, Jacques chapitre 3, verset 5. De même la langue, Jacques chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Je devais, en lisant cette parole, penser au dernier feu de forêt. Des milliers de kilomètres ont été brûlés. Et je voulais en fait apporter aujourd'hui avec moi une allumette, pour vous montrer comment est-ce qu'une allumette, un feu d'allumette est petit. Et il suffit. Il suffit pour produire un grand incendie. Hein? Oui. Un jeune homme a allumé une allumette et le vent a pris soin de tout, du reste. Et nous avons lu comment est-ce que nos paroles peuvent être emportées et produire des dégâts partout. Toute une forêt peut être brûlée. Comment cela semble sans importance? Une petite allumette, et malgré tout des milliers de kilomètres vont en feu parce que quelqu'un, n'est-ce pas, n'a pas fait attention. Ensuite, cela continue ici, au verset 6 de Jacques, chapitre 3. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ensuite, verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Auparavant, il a dit, il dit que l'homme peut dompter tout, n'est-ce pas? Les serpents, les lions, etc. Mais il ne peut pas dompter sa propre langue. Et ici, nous arrivons à ce point important, bien mes frères et sœurs, que nous puissions simplement nous mettre à la disposition de Dieu. que nous n'ayons plus parmi, qui n'existe plus parmi, les croyants une mauvaise langue, que le Seigneur puisse consumer notre langue, la purifier, la sanctifier, pour nous remplir de cet esprit, pour que nous puissions, avec une langue pure, annoncer les grands faits de Dieu dans notre temps. Oui, nous pourrions encore continuer à lire. Au verset 8, nous avons ensuite la réponse. Au verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Dans notre traduction en allemand, c'est écrit « Bénis sont ceux qui produisent la paix. » Donc, il a lu le verset 18. Pas des personnes qui produisent, pas la paix, mais qui produisent la paix. Le fruit de la justice est semé. Et Paul aussi, cela s'ajoute avec ce que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Créer un seul homme qui produit la paix. Éphésiens chapitre 2. Nous avons encore dans Jacques 2 ou 3 versets. Jacques chapitre 4, verset 11. 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres. Jacques 4, verset 11. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ensuite, verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le qui juge ton prochain. Donc, ne plus porter un jugement, ou bien parler mal, de garder sa langue en bride, et d'être là les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres, et arrêter de parler mal. J'ai apporté cette citation quand même de Frère Branham, et il parle dans cette prédication avec le titre « Le signe ». Il adresse cela à l'Église. En allemand, c'est la page 38. Citation. Pendant que nous voyons les grands signes des temps, de notre temps, elles sont pour nous un avertissement. Un avertissement que le temps est proche, Ou bien, prenez cela, s'il vous plaît, très au sérieux. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Tel qu'il nous a aimés. C'est ainsi que nous devrions aussi nous aimer. Ensuite, nous devrions être dans un tel amour les uns pour les autres que nous ne pouvons jamais parler mal l'un de l'autre. Si quelqu'un fait une erreur, priez rapidement pour lui, car nous sommes tous ensemble, nous tenons tous ensemble devant Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Oh, vivez une vie divine. Vivez comme cela se doit de vivre pour des fils et des filles de Dieu. Vivez comme des fils de Dieu dans une atmosphère d'amour et humble et humilité. Ne permettez rien de mal venir dans vos pensées ou bien dans votre cœur, mais rejetez ces pensées qui ne sont pas pour le frère quand elle vient frapper à votre porte. Rejetez ça et dites simplement, nous nous tenons sous le signe, sous le sang, et nous allons de l'avant. Montrez, cela montre que vous êtes sous le signe, sous le sang. Nous sommes les deux, sous le sang de l'agneau et sous le sang de la nouvelle alliance. Et nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Ensuite, comme prochaine citation, vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se séparer complètement du monde, de l'esprit du monde. Ici, je veux me permettre cette remarque. J'estime au-dessus de toute mesure que nos jeunes ne vont pas dans le chemin large qui mène à la perdition durant toutes ces années. Ne sont pas allés dans le chemin large qui mène à la perdition durant toutes ces années. J'estime beaucoup cela, que Dieu vous a accordé la grâce et la crainte à vous les jeunes. Il vous a mis dans le cœur de ne pas marcher dans le chemin large. Je ne devrais pas le dire, mais aux États-Unis, les jeunes croyants vont une fois par semaine au cinéma. Oui, c'est courant là-bas. N'est-ce pas? Ils ne devraient pas, parce que les croyants disent qu'ils ne devraient pas être étrangers au monde. Nous ne sommes pas étrangers au monde. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui serait étranger au monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et les jeunes aussi, nos enfants, les jeunes non plus, n'ont rien à voir à faire dans le chemin large qui mène à la perdition. Même si l'adversaire vous attire, mais il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous avertit, et nous sommes reconnaissants pour cela. Lisons encore. Séparés du monde. Ne prenez pas comme ça pour longtemps à la légère, vous qui écoutez ces bandes magnétiques. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas encore, il n'y avait aucune prédication en brochure. Il n'y avait que les bandes magnétiques. Ici, vous qui écoutez les bandes magnétiques, vous qui allez les écouter, vous hommes et femmes, écoutez. Si vous m'aviez une fois cru, croyez-moi maintenant, car c'est le temps est là de cesser avec les disputes les uns avec les autres, avec les disputes. Croyez le message de la Bible, croyez Jésus-Christ. Aimez, estimez-vous et respectez-vous les uns les autres. Le temps est arrivé de se disputer. Hommes, respectez votre femme et votre famille. Rassemblez votre famille. Car l'agneau était fait pour toute la maison. Pas seulement pour une seule personne, mais pour toute l'agneau était pour toute la famille. Toute la famille devait être rassemblée. Tous devaient être dans la maison, à l'intérieur. Nous devrions nous aimer. Les croyants doivent se séparer complètement du monde. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. C'est ainsi que je vous agréerai. Résumons de quoi il s'agit ce soir. Il s'agit de ce que notre Seigneur n'est pas seulement la pierre de l'angle, mais il est aussi la pierre de fait. Et qu'il a dit, je bâtirai mon église. Il a bâti, il appelle maintenant à sortir et il achève son église selon le modèle authentique, antique, et cela sous l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Et je vous le dis sincèrement, nous avons expérimenté déjà l'action du Saint-Esprit, même si maintenant nous lirions dans Jean 15 et dans Jean 16, mais notre temps passe, mais l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, conduit et convainc du péché. c'est l'action du Saint-Esprit. Il convainc du péché, de l'incrédulité. Tout ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Lisons cela encore, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, ici, il est écrit à partir de verset 17. Là-dessus, quelques-uns. Il est bon que j'aille, car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand je serai allé, je vous l'enverrai. Jean 16, verset 7, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le péché en ce qui concerne le péché, la justice et la justice. La justice et le jugement. Soyons sincères. Est-ce que nous ne l'avons pas déjà expérimenté? Est-ce que Dieu ne nous a pas accordé la révélation? Est-ce que nous n'avons pas été convaincus du péché, de la justice et du jugement? Avons-nous pas expérimenté une repentance? Avons-nous pas? Tout cela, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Jean 16, versets 7 et 8. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Tous ceux qui ont été appelés à sortir du monde et qui sont élus, c'est à eux que le Seigneur ouvre les yeux. Car tous nous étions dans le monde incroyant. Et le Seigneur nous a appelés à sortir. Et cela a eu lieu sous la prédication. Il a agi par son esprit et il nous a convaincus. Tu peux essayer, c'est écrit ici. Il convaincra le monde, il ouvrira les yeux. En ce qui concerne le péché, qu'est-ce que Frère Branham ici a dit concernant le mot péché? Il a dit que le péché original, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Et notre Seigneur l'a dit ouvertement. Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est seulement la foi que Dieu accorde qui est quelque chose de très précieux. Donc, il ouvrira le monde. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Et si vous l'avez expérimenté, dites Amen. Il nous a ouvert les yeux. Ensuite, sur le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Vous voyez, le verset 9. Non, l'incrédulité, le péché original, le péché, qui ne croit pas en moi. Ils ont rejeté la pierre de l'angle, la pierre. Et ils sont tombés dans leur propre piège parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont trébuché. S'ils avaient cru, parce qu'ils n'ont pas cru, ils vont devoir mourir dans les péchés. Ensuite, verset 10, la justice. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ensuite, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan est déjà vaincu. Satan est déjà jugé. Le serpent à la tête écrasée, notre Seigneur, le troisième jour, est ressuscité. Et il nous a accordé la victoire et nous a apporté la victoire par sa résurrection sur le péché, sur le diable, sur tout. Nous avons un plein évangile, un plein salut. Et encore le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Avons-nous pas expérimenté cela? Ça, nous l'avons tous expérimenté. Et j'ose dire qu'il n'y a jamais eu un temps sur terre où le Saint-Esprit, si profondément, dans la vérité, a conduit son peuple, pouvait conduire son peuple, comme dans notre temps, parce que le temps était justement, n'était pas encore arrivé dans les temps passés pour cela. Mais résumons, toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et comme du temps de Moïse et du temps de Josué, cela est décrit. Aucune des promesses que Dieu a donné est resté sans accomplir. Toutes se sont accomplies. Les promesses de Dieu demeurent éternellement. Elles ne s'ébranlent jamais, car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il a promis dans sa parole. Jean l'a exprimé, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, notre Seigneur fait mention à ce que Jean a dit. Et ici, il a écrit dans le prochain verset, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5.
Denn Johannes hat mit Wasser getauft.
Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, 10 jours, et cela a eu lieu. Ce que Dieu a promis dans le prophète Joël est devenu une réalité. L'Église a été fondée, la première prédication a été tenue, le premier baptême a été annoncé, et 3000 personnes ont, en un seul jour, expérimenté que le Saint-Esprit les a convaincus du péché, du jugement, de la justice, de tout. Et ils ont demandé, bien-aimés frères, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Et la réponse a été, repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, nous lisons réellement, noir sur blanc, ici, dans le verset 41, Actes des Apôtres, chapitre 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La prédication de Pierre n'aurait rien produit comme effet sans l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Et tous, nous portons un désir profond dans notre cœur que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre d'une manière qu'on peut l'expérimenter personnellement, pas des prétentions. Je m'attends à cela, bien, frères et sœurs, aussi avec tous ceux qui sont dans le monde entier en liaison, en ligne directe. Cela ne suffira pas, mais il faut être aussi en liaison avec le Seigneur, en ligne directe avec le Seigneur, avec le Seigneur. Pas seulement la relation à Pierre ou bien à Paul, mais au Seigneur. Et ensuite, on reçoit la relation à ceux que le Seigneur a dit et aussi à comment est-ce que ça a été transmis par les prophètes, par les apôtres, et aussi ça concerne aussi ce qui a été dit à frère Branham. D'abord, il est nécessaire que nous ayons la relation personnelle avec le Seigneur, que nous recevons la relation personnelle avec le Seigneur, avec Dieu. Et ensuite, si vraiment nous avons la relation avec Dieu, ce qui a été dit à un serviteur de Dieu nous sera aussi révélé. Nous allons l'accepter. Nous allons le retrouver dans la parole. Nous n'allons pas pouvoir le rejeter. Donc, dans la foi, nous allons prier pour tout ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que la pleine rédemption soit manifestée et que le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit dans notre vie, parmi nous, et que notre langue soit consumée du feu de Dieu. Dieu vint sur la montagne de Sinaï en feu. Dieu est un feu consumant et sa parole est comme un feu et comme un marteau qui brise les pierres. Tout est écrit déjà dans la parole de Dieu. Tout nous l'avons dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons seulement besoin de croire, vraiment de croire. Dites, soyez sincères. Dieu, autrefois, a accompli la promesse. Est-ce qu'il devrait ne pas l'accomplir encore dans notre temps? Qu'est-ce qui a changé? Rien. La Bible dit dans Jacques qu'il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Nos prières vont être simplement, bien-aimé Seigneur, fais avec nous comme tu l'as fait au commencement avec nos frères et nos sœurs. Pour que tout notre être soit placé dans le ministère de Dieu, au service de Dieu, que nous puissions dire avec véracité, pas comme je le veux, mais comme tu le veux, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, que avec véracité, nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, pas le propre moi, mais Christ vit en moi. Lui qui s'est donné pour moi. Oh, quelle parole, quel évangile merveilleux. Et encore une fois, valable pour nous tous. C'est pour cette raison que nous remercions Dieu pour le message qu'il nous a accordé, c'est-à-dire de revenir à la parole, de revenir à la pleine parole, parfaite, incluant tout. Et ça, c'est le message qui est procureur du retour de Christ. À notre Dieu et Seigneur, soit l'honneur dans toute l'éternité. Encore une question. Êtes-vous d'accord avec toutes ces paroles de Dieu? Oui, c'est important d'être d'accord avec Dieu. De dire oui Seigneur, me voici. Apprends-moi entièrement, je veux t'appartenir entièrement, être à ta disposition, aide-moi, secours-moi, aide-moi, touche-moi, purifie-moi entièrement, sanctifie-moi. Fais tout ce dont j'ai besoin en moi pour que tu puisses recevoir ce qui te revient en plein droit et avoir ton bon plaisir, toute ton affection. Que à notre Dieu soit l'honneur, la gloire et l'adoration dans toute éternité. Ensemble, nous expérimentons, nous allons louer la puissance du sang, la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit. Ces trois rendent témoignage. Et nous remercions Dieu pour sa parole, pour le sang de la nouvelle alliance, pour la pleine rédemption. Nous remercions Dieu pour vraiment l'action, comme au commencement, du Saint-Esprit dans nos jours. Dieu a, je peux aussi encore une fois le mentionner, d'une manière particulière, a utilisé Frère Branham, a béni Frère Branham. Et il veut de la même manière nous utiliser, nous bénir toute l'Église en tant que son corps. Il veut nous utiliser. Dieu voulant, nous allons encore demain, encore un peu, continuer dans ce sujet. À notre Dieu, soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever et encore chanter un chœur. Oh, je voudrais voir celui qui mourut pour moi. Nous courbons les têtes et persévérons dans la prière. Et je voudrais demander est-ce qu'il y aurait particulièrement des requêtes ou bien dans le monde entier? Que Dieu puisse bénir tous les frères, toutes les sœurs, toutes les églises qui sont en ligne directe et qui écoutent la parole, que tous reçoivent un nouveau courage et savoir et savent que le Seigneur conduit son œuvre dans la perfection, dans l'achèvement, avec son troupeau des rachetés, avec ceux qui maintenant prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église, et sont attentifs à ce que l'Esprit dit à l'Église, et croient comme le dit l'Écriture. Il nous reste encore que la reconnaissance à exprimer à notre Seigneur. Combien sont parmi nous qui ont une requête particulière? Acceptez-le dans la foi. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen, sont devenues oui et amen par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ils ne vont pas devenir simplement oui et amen. Ils sont devenus oui et amen. Dieu a achevé la rédemption en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés. La lettre de condamnation est anéantie. Et nous appartenons à notre Seigneur pour toute l'éternité. Il nous a appelés à sortir, il nous a fait sortir de tous les peuples, les langues et les nations pour que dans ce temps, nous puissions croire sa parole révélée, l'écouter et la croire et la recevoir révélée par le Saint-Esprit, car par le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Avons-nous des problèmes, des requêtes, de prières, des maladies ou quoi que ce soit, des liens, quoi que ce soit? Alors nous voulons ensemble venir devant le trône de la grâce de notre Dieu, lui apporter tout cela. Voulez-vous lever les mains rapidement? Merci, merci. Partout, il y a réellement, oui. Oh Dieu! Frère Schmitt, peux-tu prier et ensuite je vais aussi prier. Et nous allons tous ensemble prier. Nous prions tous ensemble et croire. Et nous croyons tous ensemble. Seigneur au ciel, toi Dieu de grâce, qui en Christ Jésus, tu t'es révélé et que tu n'as pas seulement donné les promesses, mais tu les as accomplies, Seigneur. Nous te remercions toutes les promesses de ce que nous pouvons venir à toi, le Dieu Tout-Puissant, avec toutes nos requêtes, avec toutes nos difficultés, aussi avec toutes nos joies que tu nous accordes et que nous recevons par ta parole, par toi. Nous te remercions de ce que tu es encore le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu étais le premier et tu es le dernier. Seigneur, tu es encore le même, Seigneur Jésus. Nous te disons merci de ce que tu as fait le commencement et tu achèveras, Seigneur Jésus. Nous venons à toi et nous te demandons ensemble tout ce dont chacun a besoin et se tourne à toi dans la prière. Toi seul est celui qui a répondu et qui répond. Tu as étendu ta main pour guérir et pour guérir. Tu as accompli toutes choses. Chaque guérison est accomplie. Chaque délivrance, même notre sanctification, tout est accompli. Nous te remercions de ce que tu allumes le feu de ton esprit dans ton église. Maintenant, à toi soit la louange, la reconnaissance pour cela. Amen, alléluia. Chantons, crois seulement, crois seulement. Et ça, nous le faisons de tout notre cœur. Pensons à Luc chapitre 1. Toi qui as reçu grâce, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Le Seigneur nous parle aujourd'hui en tant que ceux qui ont reçu grâce, en tant que ceux qui ont trouvé grâce devant lui, qui gardent sa parole et qui la croient. Et bien aimés frères et sœurs, acceptez-le simplement tel que ça vient. Nous pensons maintenant à Ésaïe chapitre 6, alors que le prophète dans la présence de Dieu était dans la présence de Dieu, et nous sommes aussi dans la présence de Dieu. Et a dit, je suis un homme avec une langue impure, et j'habite et parmi un peuple avec des lèvres impures. Et ensuite, cela s'est accompli que de l'autel, une pierre ardente fut prise et sa bouche a été touchée. Ses lèvres ont été touchées. Et le Seigneur a dit, qui enverrai-je et marchera pour nous? Le grand prophète de Dieu ici a été envoyé. N'est-ce pas? Le plus grand des prophètes dans l'Ancien Testament, il a écrit 39 chapitres, et ensuite le chapitre 40, il a ici introduit l'Ancien Testament, consolé mon peuple, dans le chapitre 40, et tel que la Bible a 66 livres, c'est ainsi qu'Ésaïe a 66 chapitres, jusqu'à les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Aujourd'hui, c'est notre jour. Et tous ceux qui ont vraiment une difficulté, moi aussi, je vais ouvrir mon cœur, refermer mes yeux. Par le chapitre 40 d'Ésaïe, il a introduit le Nouveau Testament. Nous croyons que le Seigneur est présent et que toutes les promesses sont oui et amen par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous sentir libre et placer votre main où vous voulez. Que Dieu vous guérisse. Placez-la votre main. Sentez-vous libre. Et si quelqu'un se sent conduit, a aussi placé sa main sur sa langue et dire, Seigneur, fais un miracle en moi. Fais comme tu as fait dans Ésaïe 6 et le jour de la Pentecôte dans Apôtre chapitre 2. Consume ma langue. Purifie-moi de ton feu. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et que tous ceux qui ont cru et qui veulent se laisser baptiser ont demain l'occasion. Notre Seigneur appelle les derniers à sortir. Nous voulons maintenant ensemble prier et ensemble croire. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant ta sainte face rassemblée en tant que ton peuple, en tant que le troupeau racheté par le sang. Touche mes lèvres, ma langue. Ô Seigneur, touche, fais grâce à cause de ton saint nom. Pénètre-nous tous. Guéris, délivre, bénis. Tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Accorde quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, un réveil par ton Saint-Esprit. Reçois, recevez selon vos prières. Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez la puissance de son sang, de sa parole, de son esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, toute l'Église te soit consacrée. Qu'elle te soit consacrée. C'est ton Église. Chaque langue, chaque lèvre, tous les cœurs, toute la vie te soit consacrée. Sanctifie, purifie toutes les langues, toutes les bouches, toutes les pensées. Sanctifie, purifie, touche. Descends des cieux, Esprit du Seigneur. Oh, souffle et souffle. Oh, ne reste pas éloigné. Alléluia. Alléluia. Ta venue est proche. Oh, Seigneur. Ta venue est proche. Achève ton Église. Achève ton œuvre.
Alléluia.
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 Christ soit God.
Gloire à Dieu.
Christ soit God.
Gloire à Dieu.
Alléluia.
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 Oh,
oh Dieu.
Oh,
oh Dieu.
Oh, Alléluia.
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 Preis sei unser Gott.
Gloire à notre Dieu.
Oh,
oh Dieu.
Sind noch einige.
Il y en a encore quelques-uns qui veulent consacrer leur vie au Seigneur et peut-être encore, peut-être pour la première fois, veulent consacrer leur vie à Dieu de tout votre cœur, veulent être, baptisés bibliquement pour marcher dans le chemin de la foi et de l'obéissance, que cela ait lieu maintenant. Particulièrement tous les jeunes, tous ceux qui s'ajoutent, que Dieu le Seigneur vous accorde cette expérience merveilleuse de la repentance, de la conversion, de la régénération, de la nouvelle naissance, et bien sûr, à nous tous, et bien sûr, le baptême d'esprit et de feu, que nous soyons entièrement placés dans le ministère du Seigneur et qu'il puisse achever son œuvre. À lui soit la louange, à lui soit l'honneur. Je ressens que l'Esprit de Dieu agit encore, est en train encore d'agir. Notre désir est grand et est toujours plus grand que toutes les promesses s'accomplissent et que Dieu fasse un nouveau commencement. Tout est dans la crise. Tout est dans le monde entier. Aussi, l'Église est dans une crise. Il y a tant de directions. Il y a tant d'enseignements, des doctrines différentes. Mais le Seigneur appelle son peuple à sortir et à se rassembler sous le coup de sa parole. Il va mettre fin à cette confusion babylonienne à l'intérieur du message. Et il va se lever et se manifester de manière nouvelle. Et tous ceux qui sont nés de Dieu et qui portent l'amour de Dieu dans leur cœur, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, ils portent l'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité dans leur cœur. Et comme nous l'avons aussi entendu, comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu que nous ne voyons pas? Si nous n'aimons pas notre frère que nous pouvons voir, nous voulons à partir d'aujourd'hui être véritables, et seulement dire du bien et tout le reste, remettre tout en tes mains du Seigneur, qui lui rendra toutes choses merveilleuses. Ce qui est mieux, c'est de prendre Jacques au sérieux, que chacun lui-même se regarde dans le miroir, pas dans un loupe, regarder les autres, mais dans le miroir. Ne pas avoir une loupe, mais avoir un miroir pour se voir soi-même. Avec une loupe, on ne peut pas se voir soi-même. On ne peut que voir les autres. Mais avec le miroir, on peut se voir soi-même. Dans le miroir de la parole. De la parole. Alors nous disons avec Esaïe, je suis un homme avec une lèvre impure et j'habite parmi un peuple à la langue impure. Alors arrive. Alors la réponse a lieu. Que le feu ardent de Dieu vient de l'autel de Dieu et touche notre lèvre, notre langue, et le Saint-Esprit se déverse pour que nous puissions avec une langue pure, purifiée, annoncer les bienfaits de Dieu. Et cela, dans toutes les langues, les peuples et les nations. Oh Dieu, quel privilège tu nous as donné dans ce temps. Aussi la grâce que les frontières sont tombées et que tous de l'Est et de l'Ouest peuvent se rassembler. Bien-aimé Seigneur, par ton prophète, est-ce que tu n'as pas laissé dire que quand Berlin ne sera plus divisé, alors le vieux empire romain se rétablira comme il existait autrefois? Est-ce que tu ne m'as pas montré l'épouse de l'Est de l'Europe? Est-ce que tu n'as pas dit comment est-ce que cela allait arriver? Cela est arrivé. Cela est arrivé. Et nous te remercions, ô bien-aimé Seigneur, si nous rappelions tout ce que tu as dit, comment est-ce que tu as conduit et comment est-ce que tu as dirigé toutes choses. Il ne nous resterait qu'une seule chose, c'est de te remercier et seulement de te remercier. Alléluia. Béni est ton peuple, le peuple qui dans ce temps prête l'oreille à ta voix. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit dans toute l'éternité, toute l'honneur. Est-ce que les deux sœurs ont peut-être encore un cantique qui pourrait s'ajuster à tout ce que nous avons entendu? Alors nous voulons dans le recueillement persévérer et encore ensemble prier et faire confiance au Seigneur. Nous savons qu'il l'accomplira toutes choses de manière merveilleuse. Comment est ce cœur? Mais nous pourrons après chanter proche de la maison. Oui, mon Dieu.
Die Liebe Gottes ist viel mehr, als eine Zunge sagen kann. Sie reicht hinaus zum höchsten Stern und greift zu tiefsten Sündenbahn. Ihr schuldbeladene Sünder Herzen gab Gott den Sohn dahin. Sein ihr Entkind versöhnte er, vergab die Sünden ihm. O liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Licht der Heiligen sein. Wenn einst entschwindet diese Zeit und irdsche Reiche hier vergehen, den Menschen, die nie beten wollten, zu Berg und Fels um Hilfe flehen. Dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied sein. O Liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn wir das Meer mit Tümpe füllten und wär der Himmel Pergament, wenn jeder Hahn wär eine Feder, so dass man damit schreiben könnt, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Wir könnten Bücher alles fassen, wär noch so groß ihr Wert. O Liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. O Liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein.
Amen. Das wird es auch.
Cela sera aussi ainsi.
Das wird es auch ohne Anstrengung.
Sans effort. Cela sera ainsi. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Ça, c'est la grâce et l'amour de Dieu que dans ce temps, nous puissions écouter sa parole sans mélange, sans falsification, originale, authentique, dans l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, et aussi la mettre en pratique et nous tenir à la disposition du Seigneur. Proche de la maison, proche de la maison, chantant ce cœur. Et encore, je l'aime, je l'aime.
Können, singen wir es auch in
Englisch.
Okay.
Que Dieu Seigneur bénisse tous dans tous les peuples, les langues et les nations, de l'est à l'ouest, du nord au sud, qui laisse luire sa face sur tout son peuple des nations et sur son peuple d'Israël par sa grâce, et qu'il achève son œuvre avec l'Église et qu'il l'achève aussi son œuvre avec Israël. Cela aura lieu. Cela aura lieu et cela dans notre temps.
Maranatha.
Le retour du Seigneur est devant la porte. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Et pensez à cela. Seulement l'amour parfait entrera là-bas. Seulement l'amour parfait entrera là-bas. Dieu est amour. Alléluia. Chantons encore louange, honneur et gloire. Il nous a bénis.
Amen.
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 Saluez-vous les uns les autres. Dieu vous l'en jusqu'à demain.